Bonsoir. Dans une déclaration faite vendredi dernier à Kinshasa, les évêques membres de la CENCO dénoncent la violation de l'accord de la Saint-Sylvestre et en appellent à son application intégrale. La conférence épiscopale nationale du Congo a précisé que la nomination de Bruno Tshibala comme premier ministre, sans consultation préalable du chef de la délégation du rassemblement aux négociations directes du centre interdit au César, est une entorse à l'accord du 31 décembre 2016. Comment analyser cette déclaration de la CENCO? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 24 avril 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Bédonatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Abbé Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Emery Okundji, député national de l'opposition et secrétaire général de FONUS, parti politique, membre du rassemblement, elle, Pauline Gankoy. Emery Okundji, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de William Kalonga de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. J'estime que la déclaration de la CENCO est logique. C'est l'indignation que les hommes de Dieu ressentent dans la violation manifeste de l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre par le pouvoir. C'est pourquoi ils veulent avertir tout le monde du danger qui pourrait se créer au cas où l'accord ne serait pas respecté dans son intégralité. François Capesso de Bukavu, Sud Kivu, la CENCO n'est pas habilitée à dire quelle est la vraie aile du rassemblement que le chef de l'État devait consulter, car pour moi c'est le rassemblement qui crée tous ces désordres au sein de la classe politique suite à son égoïsme. Merci de nous suivre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga sous la 95.8. Voilà. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en sigle, estime que la nomination du premier ministre issu du rassemblement de l'opposition de l'aile Olengankoy constitue une entorse à l'accord du 31 décembre 2016. Elle a dit vendredi 20 avril 2017 lors d'une conférence de presse à Kinshasa. La CENCO appelle à la mise en œuvre intégrale de cet accord conclu sous son égide pour la gestion consensuelle du pays après le 19 décembre 2016, date marquant la fin du second et dernier mandat du président Joseph Kabila. Jeff Ngoy nous en dit plus.
Sur la violation de l'accord de la Saint-Sylvestre, les prélats n'y vont pas par le dos de la cuillère. Selon le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Cholet, il n'y a pas de rassemblement que celui avec lequel la CENCO a mené ses bons offices.
Les évêques ne font pas un jugement de valeur sur Tshibala. Ils ont déploré le fait qu'une étape importante qui devrait amener à la nomination du premier ministre, à savoir la rencontre entre le chef de l'État et le chef de la délégation du rassemblement dans les négociations, n'ait pas eu lieu. Quant à la présidence du CENSA, force est de rappeler le contenu de l'accord. Le CENSA sera présidé par le président du Conseil des sages du rassemblement.
Dans le cadre de la décrispation politique parmi les figures considérées emblématiques par l'accord, à savoir les dossiers Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyambo, doivent être résolus comme cela l'a été pour les autres.
La CENCO avait reçu mandat de s'occuper particulièrement de ces dossiers-là. Le rapport a été remis à qui de droit.
La CENCO déplore la crise socio-économique du pays qui se manifeste par la dépréciation du franc congolais et la diminution croissante du pouvoir d'achat de la population.
Merci Jeff Ngoy. Le bureau politique de la majorité présidentielle recommande à la CENCO de la retenue et de laisser à César ce qui est à César pour éviter une confusion regrettable sur le caractère laïque de la RDC. Cette annonce est contenue dans la communication publiée à la suite d'une réunion stratégique tenue vendredi dernier à Kinshasa par ce regroupement politique. Selon son porte-parole, la posture institutionnelle de la CENCO apparaît comme une attitude de concurrence déloyale vis-à-vis de l'institution présidente de la République. Blaise Makassi nous résume ici l'essentiel de cette communication.
Le bureau politique de la majorité présidentielle a ainsi réagi à la déclaration de la CENCO, qui a estimé que la nomination du premier ministre, issu de l'aile Olenga Nkoy, du rassemblement de l'opposition, constitue une entorse à l'accord du 31 décembre 2016. Dans cette communication, Andra Tundu invite la CENCO à ne pas, je cite, entraîner les institutions dans une mauvaise querelle avec une structure, somme toute privée, dont les propos, les déclarations et les décisions n'ont ni autorité, ni valeur normative, ni force contraignante. Cette structure politique rappelle que lors du dépôt du rapport final au président Joseph Kabila, les évêques de la CENCO avaient vivement exhorté le chef de l'État à trouver une solution adéquate à la question de la nomination du premier ministre en sa qualité de garant de la nation. Le bureau politique de la MP regrette énormément, je cite, cette déclaration d'allure négationniste de la part de la CENCO, d'autant plus que ses propos sont perçus par l'opinion nationale comme un acharnement inexplicable, éloigné de l'amour, comme un des points cardinaux du christianisme, contre un homme de bonne volonté au service de la paix. Fin de citation.
Joseph Kabila doit se ressaisir en tant que garant de la nation. Il doit éviter de tomber dans le piège de sa famille politique, la majorité présidentielle. Propos de Claudel Lubaya, président de l'Union des démocrates africains UDA originel, un parti politique de l'opposition et membre du rassemblement L. Félix Tshisekedi. Claudel Lubaya s'exprime ainsi le samedi 22 avril devant la presse en réaction à la déclaration des évêques sur la nomination de Bruno Tshibala comme premier ministre qui, selon lui, viole l'accord de la Saint-Sylvestre. Claudel Lubaya est au micro de Paul Matendo.
Cette nomination viole l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Nous saluons à l'UDA originel la déclaration de la CENCO et invitons le président de la République à saisir la portée de la charge qu'il a, celle de garant de la nation, pour ne pas suivre les flatteurs de sa famille politique qui l'expose à la colère du peuple. Et ça, ce n'est pas bon. J'invite le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, qui a prêté serment solennel et pris l'engagement de respecter la Constitution, je l'invite à se ressaisir et à ne pas écouter tout ce bruit qui vient du fond des eaux de sa famille politique qui veulent le maintenir dans une erreur permanente. Et ce n'est pas bon ni pour lui-même, ni pour sa famille politique et encore moins pour la nation tout entière.
Abbé Donatien Cholet, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qui motive cette déclaration de la CENCO?
Eh bien, ce sont d'abord les évêques qui ont parlé. Ils ont parlé comme prophètes. Je crois que le sous-titre peut dire orienter dans quel esprit ils écrivent. C'est une citation de Timothée, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire. C'est dans cet esprit prophétique et non comme médiateur, parce qu'ils ont cessé les bons offices comme médiation, que les évêques ont pris la parole. Et constatez que cette déclaration de l'épiscopat vient après plusieurs d'autres réactions, après la nomination du Premier ministre. Ce fait se justifie simplement par le temps que les évêques ont voulu se donner pour réfléchir sur la chose. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà comment les évêques procèdent pour écrire une lettre comme celle-ci. Ils commencent par échanger, ils viennent chacun de son coin, ils commencent par échanger et dire chacun ce qu'ils reçoivent de la base. Ils font l'analyse de la situation sociale, ils disent ce qu'ils veulent communiquer, le secrétariat technique le met en musique, le texte les revient, ils lisent la lecture générale, si c'est conforme à leur pensée ou pas, ils ajoutent ce qu'ils croient avoir été omis, ils passent en revue phrase par phrase, changeant de vocabulaire, de tournure, pour que ce soit vraiment leur texte. Il s'agit de gens bien formés, de docteurs qui ont étudié dans les grandes universités du monde et qui n'ont pas en quête d'emploi, qui n'ont qu'un seul souci, le bien-être du peuple congolais. Alors devant cette question de grande importance, la nomination du Premier ministre, et les évêques sont à l'écoute de la base. Alors, étant donné qu'il y avait des avis partagés, Alors, le fait qu'ils ont eu quand même amené la médiation dans ces négociations, le fait que leur responsabilité morale est engagée, les oblige moralement à éclairer la lanterne. Le prophète, c'est celui qui éclaire la population.
Est-ce que ça veut dire que le contenu de cette communication reflète le point de vue de la base? C'est ce que la population pense?
Ben, c'est à vous de faire le sondage. Vous êtes mieux placé pour le dire et nous serons édifiés de publier les résultats. Mais chaque évêque vient avec de réactions de ses fidèles.
Alors la majorité présidentielle a réagi à cette communication de la SENCO. Elle vous demande de la retenue et de laisser à César ce qui est César pour éviter une confusion regrettable sur les caractères laïques de la RDC.
Ah ben oui, de la retenue, je suis d'accord, les évêques eux-mêmes le demandent dans leur message. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, c'est vrai, c'est biblique. Mais il faut considérer que la vie du peuple congolais appartient à Dieu, non à César. Voilà pourquoi les évêques s'y intéressent.
Alors la MP dit toujours dans sa communication que la MP, lors du dépôt du rapport final au président Joseph Kabila, les évêques de la SENCO avaient vivement exhorté le chef de l'État à trouver une solution adéquate à la question de la nomination du Premier ministre en sa qualité de garant de la nation. Et c'est ça que le chef de l'État a fait. La MP s'étonne de cette communication où on dit que le chef de l'État a violé l'accord du 31 décembre 2016 alors que c'est vous qui avez demandé au chef de l'État de trouver une solution adéquate.
Voilà, vous parlez bien d'une solution adéquate. Et les évêques justifient pourquoi ils considèrent que cette nomination est une entorse à l'accord du 31. L'accord stipule que le Premier ministre le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 19 octobre, rassemblement est nommé par le président de la République conformément à l'article 71. Évidemment, la difficulté, il faut le reconnaître, c'est l'expression au niveau du rassemblement. Mais selon la lettre et l'esprit de l'accord, il s'agit de la configuration du rassemblement tel que cela s'est vérifié dans les négociations. Pour votre information, quand bien même il y avait ces structures, il y avait deux camps, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour où les évêques ont jeté l'éponge, le rassemblement, quand bien même il y avait le désel là, a été reçu comme un corps, et sous la délégation de M. Félix Tshisekedi. Donc même les Olengankoy étaient venus le 27 mars comme délégation sous la direction de M. Tshisekedi. Donc c'est ça la réalité des négociations, c'est ce que les évêques ont souhaité. Les évêques ne sont pas allés jusque dans les détails pour savoir pourquoi est-ce que la rencontre entre le président de la République et le chef de délégation de rassemblement n'a pas eu lieu, parce que chacun argumente de son côté. Ils n'ont pas voulu faire l'arbitre, jouer à l'arbitre, mais ils ont constaté, ils ont déploré, voilà.
Alors, à Béchollé, il y a des gens qui estiment que, en rejetant la nomination de Bruno Tshibala, la SENCO s'est délaissée de sa personnalité, de sa responsabilité de pasteur conciliateur en devenant partie prenante de l'une des parties en conflit.
Eh bien, je crois que la SENCO n'a pas pris parti pour quelqu'un contre quelqu'un et pour quel intérêt. Vous savez, la vérité fait quelquefois mal, mais elle libère surtout. Les évêques sont libérés parce qu'ils n'ont dit que la vérité. Donc je crois que le constat est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair. Il y a donc en politique, on peut concéder le fait de diviser pour gouverner, c'est une stratégie politique, en politique ça passe. Mais on est dans un contexte où tout était régi par un texte et il fallait au maximum rester dans le dans ce schéma-là de la de délégation.
Merci Abbé Cholet. Merci Abbé Cholet.
Ce que les évêques ont dit.
Merci Abbé Cholet. On vous redonne la parole tout à l'heure. Emery Okundji, député national de l'opposition et secrétaire général du FONUS, parti politique, membre du rassemblement L, Olenagoy. Emery Okundji, comment vous analysez-vous cette déclaration de la SENCO?
Eh bien, je vous remercie de la question, madame. Je salue en passant l'abbé Cholet. La déclaration, madame, nous l'avions très mal accueillie. Très mal accueillie, puisque vous savez que l'accord du 31 décembre 2016 est un compromis de fin de conflit et qui constitue la paix des braves. Monsieur l'abbé Cholet le sait très bien. Il nous permet, cet accord, d'entrer dans une logique de gestion consensuelle. Et gestion consensuelle et concertée du pouvoir durant la période préélectorale et électorale. Et donc, vous comprendrez, madame, que faire une déclaration incendiaire appelant même le peuple à la révolte n'est pas de nature à nous arranger, nous, rassemblement.
La SENCO n'a pas appelé le peuple à la révolte.
Madame, il y a des phrases. Vous savez, quand vous lisez cette déclaration entre les lignes, c'est un message.
C'est votre interprétation.
Non, madame, ça saute à l'œil nu. Ça saute à l'œil nu. Prenez, vous lisez même la première page, en bas de la première page, vous verrez ce qui est écrit comme phrase. Vous trouverez qu'on appelle le peuple à la révolte. Et nous ne pouvons en aucun cas. C'est notre pays, madame. Vous savez, construire la crédibilité du pays, construire la concorde nationale, construire l'unité nationale, c'est un travail de longue haleine. Mais vous pouvez en une minute, madame, détruire tout cela. Construire la crédibilité du pays, c'est un travail de longue haleine. Mais on peut en détruire en une seconde. Et donc, voilà pourquoi...
Et donc, pour vous, la nomination de Bruno Tshibala n'a pas violé l'accord de la Saint-Sylvestre?
Non, pas du tout, madame. La nomination n'a pas volé, sauf si les évêques trouvent que Bruno Tshibala n'est pas du rassemblement. Est-ce qu'aujourd'hui, madame, pour être du rassemblement, il faut être Pierre Lumbi, il faut être Katumbi, il faut être ceux qui n'ont pas voulu répondre même à l'appel de celui à qui les évêques sont allés faire rapport, puisqu'ils ont reçu mandat du président de la République.
On a deux ailes du rassemblement aujourd'hui, mais on sait que les négociations menées entre toutes les négociations qu'il y a eu à la SENCO, c'était avec l'autre aile du rassemblement, Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi.
Madame, vous savez, ça me fait très mal de parler des hommes d'église. Mais je les parle parce que je suis politique et je suis concerné. Lorsqu'on est homme d'église, madame, on doit s'abstenir de tout ce qui divise, surtout les filles et fils d'un même pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo. La mission de la SENCO avait pris fin lorsqu'ils sont allés déposer les rapports auprès du chef de l'État, du président de la République démocratique du Congo, reconnaissant et même leurs limites, leurs difficultés à trouver solution à deux points de divergence majeure. Il s'agissait du mode et de la nomination du Premier ministre et celui de la présidence et du Conseil national de l'accord de suivi. Et j'ai regardé même la télévision aujourd'hui, madame, puisqu'on a remis ça en live. Le président de la République leur a demandé même quels conseils, quelles sont leurs suggestions. Et les évêques, non-évêques, ont fait des suggestions au président de la République. Et le président de la République, suite à ces suggestions, a trouvé utile de consulter, madame. Mais nulle part, vous trouverez que les évêques condamnent même ceux qui n'ont pas voulu répondre à l'invitation du président de la République. Puisque nous sommes dans une logique consensuelle. Comment on peut trouver des solutions si l'on ne se parle pas, madame? Et lorsque l'on refuse même de se parler, nos évêques trouvent que c'est normal. Ces gens-là ont très bien fait. Et qu'est-ce qui s'est fait? Et alors,
vous avez accepté d'aller répondre à l'invitation du chef de l'État, madame, de l'État pour régler, pour trouver une solution.
Effectivement, madame, puisque nous sommes dans la logique consensuelle. Dit consensus, dit se parler. Il faut que les hommes, les femmes se parlent pour arriver à s'attendre. Et vous trouverez, nos évêques concluent que la nomination de Bruno Tshibala est une entorse, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu consultation entre le chef de l'État, le président de la République, et les chefs des délégations. Madame, d'où tirent les évêques cette légitimité? D'où tirent-ils cette assertion, madame? Puisque le chef des délégations n'est pas le président du conseil des sages et du rassemblement. Le chef de délégation qui a conduit nos délégués aux négociations, même lorsque ça bloquait, il avait le devoir d'aller vers le président du conseil des sages pour que celui-là tranche en dernier ressort.
Mais il n'y a pas
et
que là.
Le chef, le président du comité des sages, est d'office, c'est madame, selon l'accord, le président du conseil national de suivi de l'accord. Et donc, d'où vient cette assertion que le président de la République devait se concerter avec le chef de délégation? Vous voyez, on taille tout sur mesure, en fonction des individus. Or, dans un pays comme le nôtre, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Le péché de nos évêques, c'est d'avoir un penchant pour quelques individus en lieu et place de parler la République démocratique
merci,
du Congo.
Merci, Yokunji, professeur Félicien Kewamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, quelle est votre lecture à vous par rapport à cette déclaration de la SENCO?
Je crois que la SENCO avait défini au départ un principe clé sur lequel reposait leur médiation. Le principe, c'était que chaque partie prenante devait avoir un chef de file, un répondant. Et donc, ils ont voulu éviter la multiplicité des répondants qui, généralement, ouvrent la voie à l'impasse. Mais je sais aussi qu'ils ne sont pas les seuls à avoir adopté cette démarche, parce qu'avant eux, il y avait Edem Kodjo. Il avait commencé par appliquer ce même principe. Vous vous rappellerez que Edem Kodjo a fait plusieurs allers-retours pour aller voir Étienne Tshisekedi qui était en Belgique. Et quand on posait la question à Edem Kodjo, pourquoi seulement Étienne, la réponse était très vite donnée. Il dit, c'est lui qui est le chef de file de l'opposition. Et donc, il était le répondant de l'opposition. Il fallait donc identifier pour chaque partie prenante quel est le répondant. Les évêques ont eu la même. Si vous voulez, ils ont appliqué le même principe. Ils ont identifié pour chaque partie prenante quel est le chef de file. C'était pour éviter qu'on en arrive à une situation où, pour un rassemblement, on a affaire à 2, 3, 4 chefs de file. Mais vous savez que, avec le temps, avec les pressions intérieures et extérieures qui vont s'exercer sur Edem Kodjo, il va se détourner du leader de l'opposition, et c'est peut-être là la plus grande erreur de sa carrière de médiateur politique. Et on sait ce qui est arrivé, parce que l'accord du Congo est aujourd'hui enterré. Mais revenons sur la solution trouvée par la FICO. Devant la disparition d'Étienne Tshisekedi et devant la nécessité d'avancer rapidement et de signer l'accord, la FICO a vite trouvé qu'il y avait quand même un chef de délégation. Un chef de délégation qui avait la confiance du leader de l'opposition. Et donc, ils ont trouvé qu'il était nécessaire d'avoir un interlocuteur qui devait remplacer le feu Étienne Tshisekedi. Mais pendant ces temps, il y a eu une très grande dissidence au sein du rassemblement. Et l'une des questions qu'il fallait se poser, c'est que pendant les négociations, comment on gère les dissidences qui interviennent? Mais aussi, comment la SENCO et comment la majorité ont géré les dissidences du rassemblement? Quand vous regardez là, vous avez deux démarches différentes. La SENCO a eu une démarche qui a consisté à maintenir les équilibres et la configuration initiale du rassemblement, qui existait déjà avant les négociations, et aussi la configuration de sa délégation. C'était le maintien le plus total. Par contre, on a une démarche qui était tout à fait inverse de la majorité, qui a consisté, si vous voulez, à changer les équilibres. Et là, vous devez savoir qu'un rassemblement uni était plus fort qu'un rassemblement morcelé. Regardez aujourd'hui tous ces messieurs qui parlent au nom du rassemblement. Ils sont complètement affaiblis. Nombreux aujourd'hui parle de l'exploitation de cette dissidence par la majorité. Et la population, je peux vous dire que j'ai plusieurs fois eu à parler avec nos amis de l'opposition et du rassemblement sur le plateau de Radio KP. Et aujourd'hui, ils sont moins écoutés qu'il y a quelques mois. En fait, la majorité aurait dû se tenir à l'écart des dissidences internes à l'opposition et respecter les principes d'organisation du rassemblement. Mais à partir du moment où la majorité, parce qu'aujourd'hui, il semble bien que la majorité a tendu la main à l'autre partie de la dissidence, et donc cela apparaît très mal aux yeux de l'opinion. Mais disons une chose à propos des dissidences. Les dissidences et les luttes factionnelles qui ont provoqué une recomposition de l'opposition politique ne visent en réalité qu'un repositionnement de politique des acteurs. Ils veulent entrer au gouvernement. Et là, l'entrée au gouvernement, eh bien, c'est une bonne chose pour nos amis et les acteurs de l'opposition, mais au point de vue des enjeux, pour la majorité, c'est comment rester au pouvoir tout en neutralisant l'opposition.
Alors, professeur Félicien Kabamba...
Pour l'opposition, je vais finir par là, c'est l'enjeu, c'est comment entrer dans le gouvernement et donner l'impression de continuer d'être dans l'opposition.
Alors, professeur Kabamba, la majorité soutient qu'avec cette prise de position sous la nomination de M. Tshibala Lasenko est allée au-delà de sa vocation. Elle a montré son penchant pour certains individus, pour le rassemblement Tshisekedi. C'est ça qu'aussi Emery Okundji vient de dire dans cette émission.
Non. La CENCO est restée fidèle à ses principes du départ. C'est que chaque composante a un chef de file. On ne peut pas avoir pour une seule composante plusieurs répondants. Et à partir du moment où, au niveau du rassemblement, cet équilibre n'a pas été respecté, eh bien, pour la CENCO, c'est que les principes du départ n'ont pas été respectés. Il y a violation. On ne peut pas avoir un dialogue, on ne peut pas avoir une négociation avec, pour le même groupe, plusieurs répondants. Non, ce n'est pas ça le principe des négociations. Et ce principe n'a pas seulement été posé par, je veux dire, la CENCO, et Edem Poudjo l'appliquer aussi déjà.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Bécholé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Dilolo dans la province du Lualaba.
Jacques Capin depuis Dilolo dans la province du Lualaba. Leurs Excellences, Messieurs les évêques, membres de la CENCO, doivent éviter de montrer à la face du monde qu'au-delà des bons offices qu'ils ont assurés auprès de la classe politique, qu'ils avaient déjà choisi leur camp. Je pense, à mon humble avis, que les évêques auraient mieux fait de demeurer la véritable église au milieu du village plutôt que d'exacerber une tension déjà latente autour de la situation politique en RDC. Ce qui importe n'est pas de soutenir tel ou tel autre camp politique, l'essentiel étant celui d'amener le gouvernement à organiser les élections conformément à l'accord politique signé en décembre 2016. Leur crédibilité en dépend donc.
Abbé Cholé, comment vous réagissez à ce point de vue de cet auditeur qui nous appelle de Dilolo?
Oui, je le comprends en pareille circonstance. Quand on a affaire au groupe politique qui a chacun un intérêt, quel que soit ce que vous dites, vous êtes taxé par l'un ou l'autre d'être pour ou contre. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, plusieurs fois la CENCO a reçu aussi les flèches de l'opposition qui est l'accusée d'être complice du pouvoir. Je demande à l'intervenant de tout à l'heure de se référer à l'histoire de la CENCO. Il verra que la CENCO est restée constante, quel que soit le pouvoir en place ou l'opposition en place. Je suis tenté de lui poser la question, mais quel intérêt la CENCO aurait à choisir les camps de rassemblement? Qu'est-ce que le rassemblement rassurerait? La CENCO ne dit pas que le rassemblement demain au pouvoir fera mieux que le pouvoir, non. C'est le respect. En fait, ce qui justifie cette façon de voir, c'est le fait que le discours de la CENCO rejoint facilement le discours du rassemblement. Mais il suffit de voir, par exemple, le rassemblement au pouvoir demain, et se comporter comme de façon à ne pas plaire à la CENCO, c'est-à-dire à ne pas privilégier les intérêts de la population, vous verrez le rassemblement dira que la CENCO est à l'opposition. Si j'ai encore une minute, je peux...
Allez-y, monsieur l'abbé.
Revenir au propos de l'honorable...
Okundji. Okundji.
Voilà, que je salue en passant. En tout cas, j'ai entendu dire que le CENCO, en homme de Dieu, il ne devait pas s'engager à ce qui divise. Vous savez, c'est relatif. Le Christ, qui est le maître des pasteurs, qui sont des évêques, a dit « Heureux les artisans de paix ». Le même Christ a dit « Ne croyez pas que c'est la paix que je suis venu apporter, mais l'épée ». Une famille de cinq sera divisée deux contre trois. Jésus ne s'est pas contredit. Mais tout devient clair quand il conclut dans un autre endroit en disant « C'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas à la manière du monde ». Donc la justice ou la médiation n'est pas un compromis entre le bien et le mal. Le prophète dénonce ce qui a dénoncé, encourage ce qui a encouragé. Je crois que dans beaucoup de messages des évêques, il y a eu des encouragements par rapport à des bonnes choses faites par le gouvernement. Et je suis convaincu que les évêques aiment le président de la République plus que beaucoup de gens qui se réclament la majorité. Et ils le font sans intérêt.
Alors, qu'est-ce que vous espérez en dénonçant que l'accord a été violé par la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre?
Cela a été dit déjà, les évêques n'ont rien à voir contre la personne de Bruno Tshibala. La même personne, donc Bruno Tshibala, pourrait être nommée. Si par exemple dans les consultations avec Félix Tshisekedi on arrivait à proposer son nom, cela ne poserait pas problème. Mais en les dénonçant, les évêques se libèrent du fait que c'est une responsabilité morale qu'ils avaient à dire les choses telles que ça devrait l'être.
Alors, je reviens sur la réaction de l'auditeur qui estime que, bon, le Premier ministre a déjà été nommé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pousser le gouvernement à matérialiser l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Et non des querelles de nature à positionner tel ou tel autre camp. Il faut pousser maintenant ce gouvernement à organiser les élections.
Ben voilà, le plus important c'est le consensus. Je crois que c'est difficile mais c'est pas impossible. Et là aussi le rassemblement a aussi sa responsabilité. J'ai entendu dire qu'on a pas con. Non, on a interpellé les acteurs politiques, toutes tendances confondues, qu'ils soient plus sensibles à la souffrance de la population. Les gens du rassemblement savent. On leur fait pas toujours des compliments. Et vous savez que si on a pris du temps pour commencer les négociations directes, c'est parce que la CENCO s'est engagée à rapprocher le point de vue du rassemblement à ceux de la majorité pour que ce soit quand même au niveau des discussions. Vous ne perdez pas de vue que pour le rassemblement, c'était la transition sans le président Kabila.
Merci.
Donc,
merci à Bécholé.
Il faut vraiment être conscient de tout ça pour se rendre compte que l'église est au milieu du village.
Merci à Bécholé. Mario Kunjola, aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kisangani, dans la province de la.
Mabela, je dis bien depuis Kisangani. Cette déclaration d'évêque membre de la CENCO est révélatrice de la vérité en tant qu'envie de tous. Et met au clair les velléités du pouvoir qui, après avoir violenté plusieurs dispositions constitutionnelles, se montre fidèle à son habitude en cherchant à violer l'accord supposé résoudre la crise. Non seulement le chef de l'État n'a pas concerté les délégués du RASOP aux négociations directes pour nommer le Premier ministre, pire encore, le dernier a été nommé sur base d'une liste lui présenté par Olena Koï, qui n'avait pas qualité de le faire, sachant que ce dernier était méconnu par la CENCO, médiatrice de ces négociations.
Emery, vous comptez.
Je respecte l'opinion de mon frère Mabela, madame, sauf que dire que le chef de l'État n'a pas consulté la délégation, les délégués de l'autre rassemblement, c'était un mensonge, madame. Vous savez que ceux-là ont refusé de répondre à l'invitation du président de la République. Et ils ne peuvent qu'aujourd'hui s'apprendre à eux-mêmes, madame. Mais, madame, permettez-moi, je n'aimerais pas ici employer un ton professoral pour enseigner. Mais il est quand même de mon devoir, madame, de dire au professeur Félicien Kabamba qu'avant de faire une analyse, même scientifique, il faudrait faire une analyse comparative des faits. Il faudrait connaître les règles qui régissent les structures, madame. Il faut faire une distinction nette entre le chef de délégation et le chef de file de l'opposition. Patriarche Étienne Tshisekedi, paix à son âme, était le chef de file de l'opposition. Le président du Conseil des sages, Félix Tshisekedi Tshilombo, était chef de délégation, il n'était pas le chef de file. Et donc, après la mort du président Étienne Tshisekedi, il y a des règles qui régissent le rassemblement. Il fallait tout simplement respecter ces règles. Je n'apprends rien au professeur. Sans règles, ça devient la jungle.
Mais est-ce que et le donc, rassemblement avait un règlement? On dit qu'il n'y avait pas de règlement.
Le règlement, madame, peut être oral, mais pas écrit. Et on respecte ce règlement de bonne foi. Tout le monde savait que la structure suprême qui régissait les rassemblements, c'est le Conseil des sages. Dirigé par qui? Dirigé par le numéro 1, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le numéro 2, Bruno Tshibala, est porte-parole du rassemblement. Et le numéro 3, Dr Bouassa, qui était secrétaire. Après la mort d'Étienne Tshisekedi, c'est Bruno Tshibala qui était habilité, madame, à convoquer les sages du rassemblement pour trouver un remplaçant. Tel n'a pas été le cas. Et donc, je ne peux pas comprendre que le professeur d'université puisse trouver que la mission de la SECO était d'identifier les chefs de file. Non, là on donne à la SECO une mission politique. Or, la SECO ne fait pas la politique. Chaque structure qui est venue au dialogue était organisée à son sein. Alors, monsieur le professeur me dira même que non, c'est la SECO qui a identifié Vital Kamerhe comme chef de file des signataires de l'accord de la cité de l'Union africaine. C'est la SECO qui a identifié Mme Bazaïba comme chef de file du fonds. Non, madame, soyons sérieux. Et donc, vous constaterez par là que les gens sont partisans. Les gens ont choisi leur camp. Et au détriment de l'intérêt national, de l'intérêt général. Puisque la finalité de l'accord, c'est quoi, madame? Posons-nous la question. La finalité de l'accord, c'est d'aller tout droit aux élections pour que le peuple qui est souverain puisse s'approprier de son pouvoir et
dans
choisir.
Cette situation, vous pensez que c'est facile d'aller aux élections dirigeant. Lorsqu'on contexte déjà le Premier ministre, vous pensez que c'est
madame,
ça
c'est
sera
qui est prédestiné à amener le peuple aux élections? C'est Moïse Katumbi? C'est Pierre Lumbi? C'est qui est prédestiné pour amener le peuple congolais? Vous reniez à Bruno Tshibala les capacités intellectuelle et même morale de conduire ces peuples aux élections? Je dis non, madame. C'est cela divisé. C'est cela l'injustice. Et là, quand vous lisez la Bible, madame, de la première page à la dernière, de Genèse à Apocalypse, vous trouvez que la Bible est dans la justice,
merci,
dans la vérité, dans la clarté.
Merci.
Il n'y a pas d'ambiguïté.
Merci.
Madame, il se pose un problème de moralité publique dans notre société.
Merci, mes répondus, professeur. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasaï central.
Moi, c'est Corneille Moubabine, je vous appelle depuis Kananga. Pour moi, je pense que le évêque ne pouvait pas laisser la mission des bons offices, mais il pouvait plutôt faire de tout possible pour convaincre les deux parties. Mais par le fait qu'ils ont laissé la charge au président, or c'est celui qui avait décidé d'organiser les élections, c'est pour cette raison que ce dernier a fait sa volonté et non la volonté de l'accord pour se maintenir toujours au pouvoir.
Professeur.
Non, mais je crois que les évêques étaient fatigués. Ils étaient fatigués, ils étaient à bout de souffle. Et ils ont compris que les choses n'avançaient pas, ils ont pris une décision responsable. Il fallait que les négociations commencent un jour et se terminent un autre. Donc ils ont pris une décision, et je crois qu'ils ont calculé les conséquences de cette décision. Seulement, les conséquences ne sont pas bonnes aujourd'hui. Parce que l'accord avait pour objectif, n'est-ce pas, de mettre fin à l'impasse politique, à la crise politique. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'accord exaspère la crise. C'est de ce point de vue qu'on peut se poser la question, à quoi va servir l'accord à partir du moment où il ne permet pas une sortie de crise heureuse. Je voudrais quand même dire un mot par rapport à l'honorable Emery. Je voudrais lui dire que ce qui se passe au sein de l'opposition, au sein de l'Assemblement, si lui n'a pas honte, le peuple congolais a honte. Est-ce que nous pouvons, nous, Congolais, vous présenter, vous, comme étant une classe politique responsable? Non, vous devez avoir honte de parler de cette manière-là. Vous avez affaire à un peuple congolais qui se dit qu'il a de l'espoir, qu'il a placé de l'espoir à une classe politique. Le spectacle que vous présentez aujourd'hui à toute la population, c'est un spectacle qui a une grande puanteur. Non, l'honorable doit avoir beaucoup de retenue. L'opposition que nous avons aujourd'hui, les acteurs que nous avons, nous donnent de la honte. Nous ne pouvons pas nous présenter en étant donc une classe politique responsable. Si vous étiez responsable, on n'en serait pas arrivé là. Regardez les spectacles que vous offrez aujourd'hui au niveau du rassemblement. Ah non, il faut avoir beaucoup de retenue. Et ils sont très nombreux, les Congolais, qui pensent qu'il faut un renouvellement de la classe politique. Toutes les saletés que vous exposez aujourd'hui sous la table, qui se passe au rassemblement, nous ne méritons pas ça, nos peuples congolais. Et vous voulez que nous puissions nous taire? Pas du tout, le peuple ne pourra pas se taire. Vous avez obligation, vous, classe politique, tant de la majorité que de l'opposition.
Alors, professeur, vous allez devoir conclure. L'arrangement particulier n'a pas encore été signé. Comment vous entrevoyez la suite?
Eh bien, l'arrangement particulier n'a pas été signé. Il faut absolument que l'arrangement particulier soit signé. Je crois qu'il y a encore une place pour une négociation. Pas pour une nouvelle épisode des négociations, mais pour terminer les négociations qui avaient déjà entamées, qui avaient déjà été entamées. C'est de cette manière-là qu'on peut sortir. Il faut que l'accord soit une affaire de toutes les parties prenantes. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté ceux qui estiment que bon, ils ont gagné, et de l'autre côté, ceux qui estiment qu'ils ont perdu. Ils ont perdu parce que, eh bien, leur cause, disons, qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils n'ont pas été les vainqueurs, et que les vainqueurs sont plutôt de l'autre côté. Non, ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut construire un Congo qui veut sortir de la crise.
Merci, professeur Félicien Kabamba. On considère cela comme votre conclusion. Abbé Cholé, au sujet des mesures de décrispation politique, vous notez que plusieurs prisonniers politiques et d'opinion ont été libérés. Cependant, vous déplorez une certaine léthargie dans l'application de ces mesures de décrispation concernant certains cas, par exemple celui de Moïse Muyambo et Moïse Katumbi et Jean-Claude Muyambo, je voulais dire. Ça sera votre conclusion.
Eh bien, c'est ce que les évêques ont constaté, et c'est une façon de désorter à qui des droits d'être plus regardant sur ces dossiers.
Merci, monsieur l'abbé Cholet, et M. Okunji, un mot sur ces mesures de décrispation que les évêques qualifient, plutôt déplorent une certaine léthargie dans l'application de ces mesures pour certaines personnalités.
Madame, la République, c'est notre dénominateur commun. Nous devons apprendre à respecter les lois de la République. Et l'injustice, madame, est une bombe à retardement dans notre pays. Si nous voulons que notre pays avance, eh bien, il faut appliquer la justice. Et donc, nous sommes tout à fait d'accord que les filles et fils de cette République démocratique du Congo soient traités de la même manière. Ici, madame, nous demandons tout simplement à toutes nos confessions religieuses, toutes les confessions religieuses de la République démocratique du Congo, l'Église catholique, l'Église protestante, kimbanguiste, la communauté islamique, l'Église orthodoxe et j'en passe, de se mobiliser pour nous accompagner dans nos prières, dans les prières, madame, afin que nous
puissions accompagner
la République tout entière, les filles et fils de ce pays, à se mobiliser pour affronter les élections.
Merci.
Car c'est le peuple qui est le seul détenteur du pouvoir.
Merci, honorable.
C'est
la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.